Ah, c'est pas terminé. Il peut encore plus.
Et boum, c'est pas fini. Attends, c'est pas rien, ça fait rien.
Montre-lui le vrai pouf français. Montre-lui comment ça se passe au Stunfest.
Ah,
allez, 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 un truc sorti de nuque. Un vrai pouf.
Troïc Combo présente le Stunfest X. Arcade, rétro gaming, concert et tournoi de Versus Fighting. Rendez-vous les 22 et 23 mai à Rennes, centre culturel Le Triangle, pour vivre avec nous le plus authentique des festivals de jeux vidéo. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le http://stunfest.troitcombo.fr. Game Radio, partenaire du Stunfest 2010.
Dans un futur proche, certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle. Les émotions qu'ils procurent créent une dépendance.
Emergency warning. As always, they appear all of a sudden without any notice or pleasant hello. Instead, the same greeting message even after 30 years. Invade you.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Game Radio, épisode 63 de notre podcast quotidien, une émission exceptionnelle aujourd'hui puisque Game Radio a eu le plaisir, le privilège d'interviewer ce matin même Guillaume de Fondomière qui est, je le rappelle, aux côtés de David Cage à la direction du studio de développement Quantic Dream, une interview que nous diffuserons dans ce podcast et qui nous permettra de revenir sur le sujet de l'industrie du jeu vidéo en France et puis aussi sur le jeu Heavy Rain. Tout ça, ce sera pour la deuxième partie de cette émission puisque comme chaque jour, nous allons commencer ce podcast avec notre petit tour d'horizon de l'info jeu vidéo de ces dernières 48 heures. Bien sûr, aujourd'hui pour m'accompagner tout au long de ce podcast, il y a Shoham.
Salut, comment vas-tu?
Bien, très bien. Salut Shoham, très bien, je me remets de mes émotions de ce matin. C'était quand même pas rien d'interviewer ce matin une personnalité comme Guillaume de Fondomière, mais je m'en remets doucement, voilà.
T'as eu de la chance en tout cas.
Oui, oh, je l'ai pas réalisé sur le coup, mais enfin bon, certainement. On fait un petit coucou à Jarel en passant. Il ne peut pas être avec nous, obligation familiale oblige. On va dire ça comme ça. Puis toi, tu voulais faire un petit coucou à Calam, je crois.
Ouais, un petit coucou à Calam, qui est en Tunisie et qui doit bien avoir chaud là.
Voilà, et qui nous a dit qu'il n'était pas en train de profiter de la piscine, qu'il était vraiment en train de travailler. Donc, écoute, Calam, bon courage à toi. On va commencer peut-être tout de suite par les news, histoire d'arriver très très vite à cette interview que j'ai hâte de réécouter d'ailleurs. Donc on va attaquer tout de suite. Je te propose qu'on commence avec l'iPad. On a quelques chiffres à nouveau. En ce qui concerne notamment ses ventes, hein, le jeu, la console. Qu'est-ce que je raconte ?
la tablette.
La tablette. Merci. Est sortie il y a maintenant 28 jours à peu près, un mois. C'était début du mois d'avril. Je sais plus exactement. 8 avril peut-être ou 14. Je sais plus la date. Enfin bref, il s'en est déjà vendu 1 million, on va dire même à travers le monde, j'ai envie de dire aux États-Unis, mais bon, il y a pas mal de gens qui l'ont eu entre les mains. Toi d'ailleurs, Shoham, tu as eu l'occasion d'en avoir un. Donc voilà, il y a pas que les États-Unis qui ont eu un iPad, hein, on en trouve un peu partout. En tout cas, voilà, sorti aux États-Unis, déjà 1 million d'unités vendues. L'iPhone, je vous rappelle, avait atteint 1 million d'iPhone vendus seulement après 2 mois passés de commercialisation. Donc on peut dire que l'iPad marche plutôt pas mal. En plus, donc j'ai d'autres chiffres, je te les donne. 12 millions d'applications ont déjà été téléchargés pendant le mois d'avril et il y a à peu près 1,5 million de livres digitaux qui ont été eux aussi téléchargés en à peine un mois. C'est quand même assez énorme. Donc,
ce qui est quand même assez impressionnant, ouais. Effectivement, vu le nombre d'applications qui est le peu d'applications qui est disponible sur l'App Store pour l'iPad.
Moi, je m'attendais pas à un tel succès, pas du tout.
Succès, si, je m'y attendais, mais en si peu de temps, non, peut-être pas. effectivement.
Ouais, en si peu de temps. Bon, après, il y a quand même l'iPhone qui est déjà voilà, qui est déjà en place.
Ils sortent sur la vague de du succès de l'iPhone.
Voilà, les gens sont confiants, ils savent qu'ils achètent un produit entre guillemets de qualité. A priori, il y a quand même quelques petits problèmes, quelques petits bugs, c'est ce que j'ai cru comprendre.
Ouais, bah ils connaissent la machine aussi, c'est ça aussi qui rassure, c'est qu'ils connaissent l'utilisation de la machine parce qu'elle est très proche d'un de celle d'un iPhone, d'un iPod.
Ouais, et puis l'iPad surfe sur une mode hein, finalement un petit peu aussi, une mode technologique qui fait que de toute façon, c'est un joli bijou assez inévitable et qu'on va forcément vouloir posséder. Toi, tu voulais maintenant nous parler d'un jeu qui pourrait faire l'objet d'une très belle adaptation d'ailleurs, je me dis, sur iPad, mais bon, pour le moment, il n'y a rien de prévu. On l'attend encore sur PC et on a la date de sortie, il s'agit de StarCraft.
Ah, exactement, StarCraft 2. StarCraft 2, c'est oui. L'âge news du jour qu'on a entendu presque depuis, allez, on va dire 4 ans. 405 ans, il s'agit de la date de sortie du jeu et officielle, et il s'agit du 27 juillet 2010. On va enfin pouvoir avoir entre les mains StarCraft 2 Wings of Liberty, qui est le premier épisode de la campagne solo de StarCraft 2.
Alors, moi, je voulais savoir quel jour ce sera. Le 27 juillet 2010, nous serons... Alors, attends, un mardi matin, vous allez pouvoir... acheter StarCraft 2 et y jouer. Ça va être énorme.
Ça va être juste énorme parce que je sais que le jeu va se vendre à plusieurs millions d'exemplaires en très peu de temps. J'en suis certain. C'est même assuré. Puisque le bêta test a fait l'unanimité. Pratiquement tous les joueurs ont dit que le jeu était presque terminé. Était même, on va dire, ils avaient entre les mains pratiquement un jeu complet, fini. Donc il n'y a eu pratiquement aucun commentaire négatif.
Petite question, la bêta propose quoi? Juste un aperçu du jeu ou quand même pas mal de choses?
Alors vraiment bah pratiquement le jeu en fait.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire bon d'accord, voilà, c'est ce que je croyais.
Ouais. Tu as la campagne solo, tu as un jeu en fait complet entre les mains quoi.
D'accord. Et ouais, donc en fait ça va être une vraie surprise pour les personnes qui enfin en tout cas une vraie découverte pour les personnes qui n'ont pas joué à la bêta. Mais est-ce que tu sais combien de joueurs ont eu accès à la bêta justement?
Écoute, j'ai pas les chiffres mais je sais qu'il y a eu au moins bien 500 000 joueurs.
Ah ouais, quand même.
Peut-être un peu moins.
D'accord.
Peut-être un peu moins.
Et petite chose qu'il faut rappeler, c'est que le jeu sort sur PC, mais pas seulement. Le Mac aussi aura sa version.
Toujours. Comme toujours, les productions Blizzard, il y a toujours la version Mac qui sort en même temps que la version PC. Et même, autre chose encore aussi, c'est qu'il l'utilise sur la même galette.
Ah, il n'y a pas...
Il n'y a pas une galette Mac et une galette PC. Quand tu achètes le jeu, tu as la sur PC, sur Mac en même temps dans la même boîte.
Très bien.
Dans le même disque.
J'ai peut-être dire une grosse bêtise. Hein. World of Warcraft... existe sur Mac.
Existe sur Mac, oui, tout
d'accord,
à fait.
D'accord, voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est une grosse connerie.
Tu as raison de poser la question parce qu'on en parle
vraiment,
pas assez.
Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu PC avant tout et que les joueurs Mac s'intéressent pas forcément à World of Warcraft, mais bon, ok. Et
il suffit juste d'avoir la bonne machine parce que le problème de Mac, c'est bien entendu qu'il faut pouvoir gérer la 3D et avoir une bonne carte parce que tous les Mac ne le font pas.
Ah bon?
Les machines suivent pas forcément.
Ouais.
Surtout ça, mais oui, il est compatible Mac à 100%, hein, comme tous les jeux Blizzard.
Ok. On va faire un grand écart. Moi, je voulais revenir sur console. Je voulais reparler de nos amis joueurs de Halo 2, les irréductibles gamers qui sont encore sur Halo 2, qui n'ont pas souhaité quitter le jeu malgré la fermeture des serveurs qui étaient prévus, je crois que c'était mi-avril, par Microsoft. Eh bien, les serveurs Xbox Live, hein, premier du nom, la première Xbox. Enfin bon, si vous avez suivi les podcasts Game Radio, vous savez de quoi je parle. Eh bien, ils étaient 13 en début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus quand j'en avais reparlé. Ils sont plus que 12 maintenant, voilà, petit à petit, il y en a de moins en moins. Il se trouve juste que Major Nelson, Larry, de son vrai nom c'est Larry Herb, a annoncé que Microsoft ne déconnecterait pas les 12 joueurs qui sont encore connectés sur les serveurs du jeu. Donc en fait, Microsoft a décidé de les laisser continuer à jouer, ou en tout cas à occuper les serveurs. Microsoft a dit qu'il respectait l'engagement des joueurs et laissera donc les consoles mourir ou les joueurs se déconnecter avant d'éteindre les serveurs d'Halo 2, entre guillemets, c'est à celui qui se fatiguera le plus vite. Donc moi je trouve que c'est assez amusant, c'est une anecdote rigolote. Si j'ai d'autres infos concernant les 12 joueurs d'Halo 2 qui continuent aujourd'hui à se fighter sur les maps du jeu, je vous tiendrai au courant. Voilà, c'est une petite chose que je trouvais amusante.
C'est assez rigolo, effectivement. Et en plus que Microsoft, vraiment, trouve ça exceptionnel. Ils les ont carrément félicités, quoi. Disons, on a beaucoup de respect pour ce que vous faites. Continuez. En tout cas, on vous enlèvera pas les serveurs, ça c'est sûr.
Ouais, alors, je vais rester sur Halo. Et cette fois-ci, c'est plutôt pour un coup de gueule. J'hésite à être presque grossier, mais j'avoue que j'en ai un peu marre qu'on me prenne pour des cons. Et je fais presque un appel au boycott. tu vas comprendre. Ça concerne la bêta d'Halo Reach. Donc, pour tous les gens qui ont Halo ODST, qui ont aimé le jeu, qui l'ont gardé, parce qu'il est quand même sorti il y a 6 mois, bien entendu, vous avez accès à la bêta depuis hier soir et vous pouvez essayer Halo Reach. Donc, c'est une bêta qui propose pas grand chose. Je crois qu'il y a 3-4 maps, même pas 3 maps, et 2-3 modes multijoueurs, somme toute assez classiques, puisque c'est pas de la coopération, c'est pas du solo, c'est quelques modes de jeu en versus sur des maps d'Halo avec effectivement les nouveaux graphismes d'Halo Reach et tout ça. Donc, c'est pas non plus une bêta extrêmement copieuse. Mon coup de gueule vient du fait que, bah, pour ma part, j'ai plus Halo ODST, je m'en étais débarrassé, je sais plus pourquoi, le jeu m'avait lassé, j'avais déjà Halo 3, donc cet add-on, entre guillemets, puisque c'est quand même qu'un add-on, je ne l'ai pas gardé à l'époque, me disant que de toute façon, la bêta d'Halo Reach, on allait certainement pouvoir y avoir accès autrement, par d'autres biais. Ce n'est pas le cas. Le seul moyen aujourd'hui de pouvoir jouer à Halo Reach, c'est d'avoir Halo ODST. Moi, ce qui me choque énormément, c'est qu'il y a des pubs que vous allez pouvoir voir sur pas mal de sites internet qui vous annoncent que la bêta d'Halo Reach est accessible, disponible depuis hier soir, mais qu'il faut que vous achetiez Halo ODST. Donc ça veut dire qu'en gros, cette bêta gratuite est payante. Elle est payante, elle coûte 40 euros. Donc c'est vraiment, moi je trouve, prendre les gens pour des cons. Donc je vous le dis clairement, n'achetez pas Halo ODST pour jouer à une putain de bêta. Je trouve que c'est vraiment du gros, vraiment du foutage de gueule, quoi. Et moi je me rachèterai pas le jeu, donc j'avais prévu de faire un Game Radio Online dessus. Et ben on ne fera pas de Game Radio Online parce que j'ai décidé que je ne me rachèterai pas un jeu pour simplement participer à une bêta. J'aurais certainement d'autres moyens de trouver le jeu, je peux me le faire prêter. Mais non, là j'ai décidé que tant pis. Là vraiment, je trouve ça ignoble. Surtout qu'ils aient fait une campagne de pub autour d'une bêta.
C'est surtout ça,
ouais, c'est vraiment hallucinant. Surtout qu'à mon avis, je suis convaincu que d'ici quelques jours, elle va devenir disponible. D'ici quelques semaines, je suis sûr qu'ils vont la rendre accessible à tout le monde. Donc c'est un vrai attrape-couillon à mon sens.
Ah non, mais de toute façon, se racheter, acheter une bêta déjà dans le concept, c'est complètement stupide. À moins vraiment de faire un prix d'appel. Moi, par exemple, j'avais pour Ion, ils avaient donné la possibilité d'accéder à la bêta si tu précommandais le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, si tu achetais la précommande à 5 €. Mmh. Alors on va dire que c'est plutôt raisonnable, c'est ce que j'avais fait pour Ion. Mais effectivement, racheter un jeu complet juste pour une bêta, là effectivement ça devient limite d'une arnaque.
Oui, alors ce qui était au départ qu'un bonus, hein, c'est vrai que à l'époque, enfin moi je l'ai gardé longtemps à l'ODST, pendant 3 mois j'avais ce jeu en me disant bon bah il y a la bêta dans quelques temps. Je ne l'ai plus le jeu, j'ai pas eu accès à la bêta pour autant, et malgré mon achat aujourd'hui je peux pas accéder à cette bêta. Tu vois, il aurait fallu que je garde mon jeu pour pouvoir y avoir accès. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui c'est certain que je vais pas débourser 40 € pour ça. Enfin voilà, je trouve que c'est une vraie arnaque, et j'invite vraiment les gamers à pas se laisser avoir, quoi. N'achetez pas Halo ODST pour jouer à une bêta. Enfin, si vous le faites, là je comprends plus.
Ne soyez pas compulsif, quoi.
Essayez de pas être compulsif. Ça vaut vraiment pas le coup. Voilà. Donc mon petit coup de gueule est passé. Je crois maintenant que tu voulais nous parler du prochain MGS Peepee Walker. Non, on a fait une petite blague hors antenne là-dessus. Peace Walker. Non, on la fera pas.
C'est Peace Walker.
Peace Walker.
Donc le marcheur de paix, hein.
Et pas de pipi.
Enfin, de...
oui, de PAIX. Bon.
Il s'agit de Peace Walker.
L'humour de gamin, quand même.
Ah bah bravo.
Allez.
Concernant Peace Walker, on sait maintenant que Kojima, en fait, considère vraiment cet épisode comme MGS5. Pour dire que l'importance qu'il donne à son titre, il lui donne tellement donc d'importance qu'il envisagerait de l'adapter sur PS3.
Alors carrément. Que c'était annoncé, je me souviens, le 3 dernier, comme une exclusivité 360.
Non.
Ah, je me
pas le Peace Walker, c'est PSP.
Ah oui, d'accord. Oui, non, mais je mélange parce qu'il y a PSP, oui, hein. il y avait une annonce. Non. Oui, voilà. OK.
Effectivement, la version 360, c'est un épisode à part, c'est un hors-série, on va dire.
Oui. Dont voilà. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs, mais bon, c'est pas.
On n'a aucune nouvelle, mais qui viendra certainement bientôt, hein. Donc voilà, ouais, Peace Walker lui donne tellement d'importance que au lieu de le sortir que sur la PSP, il pourrait aussi le sortir sur PS3, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce
ce qui est assez original, parce qu'en général on adapte les jeux PS3 ou enfin PS2 à l'époque, mais enfin voilà, les jeux sont adaptés de la console de salon en portable, et l'inverse est rare.
Bah, parce que tout simplement parce que la technologie c'est plus compliqué, c'est plus facile de downgrader, on va dire.
Eh oui, bah justement, comment est-ce que
des éléments
non
pour rendre ouais. Ils vont créer un nouveau moteur, je pense. Ils vont récupérer peut-être le moteur de MGS4 et adapter l'histoire de Peace Walker en faisant voilà des nouveaux textures, nouvelles.
Je pense plutôt. Est-ce que c'est pas plutôt qu'ils se rendent compte que la PSP se vautre littéralement aujourd'hui, la PSP Go, n'en parlons pas, et que bah il vaut peut-être mieux sortir le jeu sur PS3.
Ou peut-être aussi, je pense que ouais, ça c'est aussi peut-être une des raisons. Même si je pense que la PSP a encore pas mal de jours devant elle, hein. Mais c'est pas le succès de la DS effectivement.
Ouais.
Pour une portable, elle se porte bien.
Bon, je sais pas. Moi, j'avais pas l'impression qu'elle se portait très bien. Autre news dont tu nous parlais hier, on parlait de bons plans. Alors là, t'as un très très bon plan, j'ai l'impression, qui concerne MechWarrior 4.
Alors ouais, MechWarrior 4. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la série, il s'agit d'un jeu de mecha, de gros mecha, où on est donc dans un énorme robot bipède et on fait la guerre avec d'autres robots en face.
Voilà, c'est l'adaptation d'un jeu de plateau des années 90, qui s'appelait BattleTech, ouais. Et qui était excellent. Je dois avoir une boîte qui traîne quelque part. Donc ça a été adapté en jeu PC au départ, et toujours d'ailleurs, effectivement. Et,
ah oui, parce qu'il y a 4 épisodes quand même depuis. Voilà, et en fait, si je parle de ce jeu-là, c'est parce qu'aujourd'hui, le développeur propose le jeu de le télécharger gratuitement avec ses add-ons sur leur site. C'est un jeu plutôt ancien, mais en tout cas, ils le proposent gratuitement. Je trouve que c'est une bonne initiative de pouvoir, comme un abandonware en fait.
Ouais, assez récent. Je crois qu'il doit avoir pas plus de 5 ans, hein, celui-là.
Oui, non, il est pas très 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 vieux, hein. Mais en tout cas, voilà, bon, comme il se vend de pas très bien se vendre, ils ont dit bon, finalement, ça va peut-être relancer la série en le donnant gratuitement.
Belle initiative, en fait. Très très belle initiative.
Très très belle initiative. Ouais,
ouais. Très bien, on a fait le tour, je crois, de nos news du jour. On va tout de suite, je vous propose, on va tout de suite passer à la suite de cette émission. Donc avec cette interview de Guillaume de Fondomière que j'ai fait ce matin, je le remercie d'ailleurs à nouveau d'avoir accepté de me rencontrer par téléphone. On l'a interviewé, pourquoi ? Plusieurs raisons, la première étant qu'il vient de se voir remettre, enfin il vient, ça fait maintenant 4 semaines, il a reçu les insignes de chevalier de l'ordre national du mérite de la part du Centre National de la Cinématographie, donc voilà, l'occasion aussi de revenir avec lui sur plus généralement l'industrie du jeu vidéo, et puis sur bien entendu Heavy Rain qui vient de sortir, et puis Quantic Dream. On écoute tout de suite l'interview, on en reparle après. Ouais. Allez, c'est parti.
Avec plaisir.
On se retrouve juste après. Guillaume de Fondomière, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Game Radio. On a souhaité vous interviewer pour plusieurs raisons. La première étant que l'on vous a remis, il y a quelques semaines maintenant, les insignes de chevalier de l'Ordre National du Mérite. Tout d'abord, félicitations.
Merci.
Alors, la remise de ces insignes s'est déroulée le 30 mars dernier. Première question, tout simplement, qu'est-ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que cela représente pour vous et peut-être plus largement pour l'industrie du jeu vidéo en France ?
J'ai ressenti bien évidemment un grand honneur et je pense que à travers cette remise d'insigne, on a voulu bien entendu encourager les créateurs de jeux vidéo, toutes les femmes et les hommes qui depuis plus de 20 ans maintenant, 25 ans même, en France créent des jeux vidéo.
Très bien, c'est Madame Véronique Kayla ou Kayla, je ne sais pas exactement comment on le prononce.
Véronique Kayla, oui.
Kayla, voilà, directrice générale du CNC. Alors le CNC, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui vous a donc remis ces insignes. Quelques mots sur la cérémonie, comment ça s'est passé, peut-être les personnes qui étaient présentes.
Alors j'ai pour ma part voulu que cette remise ait lieu au Centre National de la Cinématographie parce que le CNC a depuis de nombreuses années maintenant encouragé notre industrie, mis en place un certain nombre de d'aides au secteur et lorsque j'ai appris, je vous avouerai avec une certaine surprise, qu'on avait pensé à moi pour cet insigne, il est de coutume en fait que le récipiendaire choisisse ou en tout cas propose de se voir remettre cet insigne par une personnalité qui elle-même a déjà au moins un insigne de même grade. Et j'ai tout naturellement pensé à Véronique Kayla qui nous a encouragé ces dernières années et notamment a été un partenaire privilégié des développeurs de jeux vidéo dans l'obtention du crédit d'impôt production qui est un mécanisme extrêmement important pour l'industrie française, pour tous les studios de création de jeux vidéo.
Je ne sais pas si les auditeurs connaissent bien votre parcours dans le monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, vous êtes aux côtés de David Cage à la direction du studio de développement Quantic Dream, mais pas seulement. Vous êtes aussi depuis longtemps très engagé dans ce que je vais peut-être appeler un peu pompeusement la cause du jeu vidéo en France. Il faut savoir qu'en 2005, vous avez été élu président de l'Association des producteurs d'œuvres multimédia, qui deviendra l'actuel syndicat national du jeu vidéo. Pendant votre mandat justement de président, vous avez obtenu la mise en place du CIJV, le crédit d'impôt aux jeux vidéo. Enfin, depuis mai 2009, vous êtes le président du syndicat européen des développeurs de jeux vidéo. Est-ce que, selon vous, c'est pour toutes ces raisons, cet engagement et votre travail qu'en mars dernier, vous avez reçu cette distinction, ces insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite ?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est effectivement ce combat que j'ai mené depuis de nombreuses années, pas tout seul d'ailleurs, mais avec un grand nombre de studios français qu'on a considéré qu'il fallait que je sois récompensé en quelque sorte, ou en tout cas mis à l'honneur de cette façon. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de cœur à d'une part rassembler les développeurs de jeux vidéo. C'est une industrie qui est encore assez jeune, assez fragmentée, la première partie de mon engagement a vraiment été au rassemblement, et puis ensuite essayer de défendre au mieux les intérêts des producteurs de jeux vidéo et faire en sorte que nous ayons en France un écosystème qui soit le plus dynamique possible. Le crédit d'impôt jeux vidéo étant effectivement un outil extrêmement important pour garantir notre compétitivité à l'international.
Alors j'aimerais avoir justement votre point de vue général sur l'industrie des jeux vidéo telle qu'elle est en France aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous faire un rapide état des lieux, sans rentrer peut-être dans tous les détails, un point peut-être sur les difficultés rencontrées par cette industrie et les choses qui, selon vous, sont aujourd'hui les plus préoccupantes?
Alors je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un état de convalescence après des années très difficiles. L'industrie française du jeu vidéo a eu beaucoup de mal au début des années 2000, d'une part à prendre le virage des nouvelles consoles qui sortaient à cette époque-là, en particulier la PlayStation 2. Nous avons aussi subi surtout une concurrence féroce de certains pays et notamment du Canada. La mise en place justement d'un crédit d'impôt pour les producteurs de jeux vidéo à Montréal, une province qui est francophone, comme on le sait, a eu des répercussions très très importantes sur le tissu industriel français, avec un grand nombre de studios qui ont décidé de se délocaliser là-bas. Et un grand nombre de talents qui sont en fait partis, laissant en France des studios un petit peu dans le désarroi. Depuis 2005, les choses vont un petit peu mieux. Alors c'est surtout grâce à un effort très important des studios pour se réinventer face à ces difficultés.
Le passage, excusez-moi de vous couper, le passage vous parliez du passage sur la PS2, le passage à la next gen comme on l'appelle aujourd'hui, c'est aussi une des difficultés que rencontrent les studios français.
Je pense que c'est pour toute l'industrie un moment de rupture, et il faut à ce moment-là véritablement se réinventer. Il faut savoir qu'à chaque nouvelle console, les budgets de production doublent, donc les investissements sont très très importants, et on a connu dans les années 2000 à 2002-2003 un véritable changement de paradigme avec des studios. On sortait un petit peu de la logique du garage game, c'est-à-dire des studios composés de 4, 5, 10, 15 personnes, vers des structures beaucoup plus organisées, beaucoup plus professionnelles, de plus grande ampleur. Et c'est vrai que là, nous avons eu du mal en France à prendre ce virage, à prendre la mesure des changements qu'impliquaient ces nouvelles technologies.
Quelques mots sur la place de l'État dans cette industrie. Je crois que l'État français ne s'implique pas vraiment, en tout cas c'est ce que je crois comprendre, et ne soutient pas suffisamment ce secteur d'activité. Est-ce que c'est le cas selon vous ?
Alors, je pense que les choses ont bien changé depuis justement l'année 2005, date à laquelle le gouvernement français a pris la mesure déjà de nos difficultés et aussi a compris l'intérêt qu'il y avait à aider cette industrie. Nous sommes arrivés avec des arguments qui étaient très forts. D'une part, le poids de l'industrie mondiale du jeu vidéo qui était en passe à l'époque et qui l'a fait depuis dépasser en termes de chiffre d'affaires l'industrie du cinéma. Donc Et surtout aussi le fait que les studios de production de jeux vidéo avaient besoin de talents, de collaborateurs diplômés, et donc étaient en fait des sociétés qui produisaient une très forte valeur ajoutée, et donc il y avait intérêt à ce que les pouvoirs publics aident ce secteur d'activité, qui est un secteur d'activité bien évidemment d'avenir. Donc en 2005, la première chose qui s'est passée, c'est une reconnaissance de l'industrie du jeu vidéo comme faisant partie du patrimoine culturel de la France. Et c'est à partir de cette reconnaissance que nous avons pu bâtir un certain nombre de mesures d'aide sectorielle qui nous ont permis de sauver en quelque sorte cette industrie qui était vraiment au bord de l'anéantissement, hein. Nous avons perdu entre 2000 et 2005 près de 60% de nos effectifs.
Ouais.
C'est considérablement un véritable traumatisme qui s'est passé à cette époque-là. Donc depuis 2005, les choses ont bien évolué. Et encore une fois, je crois que l'obtention du crédit d'impôt jeux vidéo montre à quel point les pouvoirs publics ont compris l'importance de ces secteurs. Il faut noter que nous sommes le seul pays en Europe actuellement à bénéficier de ce crédit d'impôt. Donc j'en suis très satisfait, bien entendu.
Et c'est que le début. Je crois que Frédéric Mitterrand, notre ministre de la Culture et de la Communication, a récemment visité deux studios du Nord-Pas-de-Calais, le studio Ankama notamment. Quelle est votre réaction d'ailleurs quant au souhait qu'il a formulé lors de cette visite et qui concerne l'ensemble des acteurs de l'industrie du jeu vidéo en France? Je rappelle rapidement dans le désordre, et pour faire court, que Frédéric Mitterrand souhaite inscrire le jeu vidéo dans une démarche patrimoniale. Il souhaite encourager la dimension créative et éducative du jeu vidéo. Il souhaite mettre en place au CNC un observatoire du jeu vidéo, lancer une mission sur le statut juridique du jeu vidéo, réaliser une première évaluation de l'impact du crédit d'impôt pour la création du jeu vidéo. Il y a beaucoup de mesures comme ça qu'il souhaite mettre en place. Quelle est votre opinion sur toutes ces propositions?
Alors, je m'en félicite bien évidemment, puisque toutes ces mesures étaient demandées depuis un certain temps maintenant par le syndicat national du jeu vidéo. Ces mesures doivent, je pense qu'on avec le crédit d'impôt jeu vidéo, on a créé une mesure d'urgence immédiate pour soutenir le secteur. Maintenant, il faut à partir de là consolider cette industrie, ces acteurs, et toutes les mesures qui ont été proposées par le ministre de la Culture s'inscrivent dans ce travail de consolidation que nous devons faire aujourd'hui pour garantir la pérennité de ce secteur d'activité en France. En particulier, je pense au statut juridique du jeu vidéo qui est aujourd'hui absolument pas défini. Donc il existe un risque très important pour les créateurs et pour nos studios, puisque nous ne savons même pas qui a finalement la paternité des droits, qui peut ou pas exploiter un certain nombre de ces droits de manière commerciale. Donc ce sont des mesures qui sont extrêmement importantes pour nous permettre de nous développer dans un environnement sécurisé à l'avenir.
Très bien, merci. Je ne peux pas converser avec vous sans parler d'Heavy Rain qui vient de sortir. Là, c'est tout frais. C'est votre troisième bébé, le troisième bébé du studio Quantic Dream. Le jeu est sorti le 24 février dernier. En 5 semaines, il s'en est vendu 1 million. Le titre aurait même obtenu une moyenne de 90,1% sur les 420 premières notes de la presse à travers le monde. Quelques mots sur ce succès et l'accueil des joueurs pour votre jeu.
Bah écoutez, nous sommes bien évidemment ravis de ce succès. Heavy Rain a été une production très très ambitieuse, sans doute la plus importante jamais réalisée en France, et il était extrêmement important pour nous, mais je pense aussi pour toute l'industrie française, que nous remportions un succès. D'autant plus notable, je pense, que ce jeu est tout à fait unique en son genre. Il ouvre véritablement un nouveau segment de marché, celui du film interactif. Alors dit comme ça, ça paraît pas très très intéressant, mais je pense que nous avons démontré que tout l'intérêt de ce format, la création donc d'une expérience interactive qui ne serait plus basée uniquement uniquement sur de l'action, mais sur l'émotion, et permettant aux joueurs, véritablement, à travers ces actions, de changer le cours de l'histoire.
Moi j'ai tendance à dire que c'est un film dont on est le héros véritablement. Comment est-ce que vous expliquez justement que Sony vous ait fait confiance sur ce projet et se soit engagé, alors que généralement on le sait, hein, le monde du jeu vidéo, ils sont plutôt frileux, ils osent pas trop innover. Là vous êtes vraiment allé dans l'innovation la plus totale. Comment vous expliquez que Sony vous ait fait confiance à ce point et ait décidé de marcher avec vous dans cette aventure Heavy Rain?
Alors en fait, lorsque nous avons sorti Fahrenheit, ils nous ont contactés pour nous dire qu'ils avaient vraiment adoré ce jeu. On a même gagné un prix en interne du meilleur jeu de l'année des testeurs de Sony. Et donc ils nous ont demandé quel était notre prochain projet. Et on leur a dit qu'on voulait véritablement construire sur les bases de Fahrenheit pour créer une expérience tout à fait unique. Et je dois dire que Sony, quand on regarde un petit peu tous les jeux qu'ils ont pu sortir ces 3-4 dernières années depuis le lancement de la PlayStation 3, ont véritablement fait le pari de l'innovation. On souhaitait véritablement un petit peu se réinventer et réinventer le jeu vidéo dans un grand nombre de domaines, et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont souhaité donc nous accompagner, parce qu'ils avaient véritablement la conviction qu'on était capable d'apporter cette évolution ou cette révolution au marché du jeu vidéo. Et nous sommes très contents, bien évidemment, à la fois eux comme nous, d'avoir réussi notre pari.
Je vous ai coupé tout à l'heure, vous vouliez dire quelque chose?
Je ne sais plus.
Bon, alors c'est pas grave, nous allons donc continuer. On le disait, Heavy Rain redéfinit pas mal de codes, hein, auxquels on est plutôt habitué aujourd'hui dans le jeu vidéo. Ça n'a pas séduit tous les joueurs quand même, la presse n'a pas toujours été réceptive à ces nouveaux concepts, même si dans l'ensemble, on l'a dit et on le voit, l'accueil est plutôt bon. Vous attendiez quand même à ce qu'il y ait des avis divisés sur Heavy Rain?
En fait, on s'attendait à ce que les avis soient beaucoup plus tranchés, soient beaucoup plus polarisés, et ça a été une très bonne surprise de notre point de vue, de voir que finalement, si le jeu ne faisait pas l'unanimité, mais quel jeu peut le faire, qu'un grand nombre de critiques ont véritablement applaudi sa sortie. Vous savez, on est dans une industrie, encore une fois, qui est très conservatrice. C'est assez paradoxal d'ailleurs, mais dès qu'il y a de la nouveauté, dès qu'il y a des choses qui sortent véritablement de la norme, vous avez forcément un certain nombre d'observateurs qui sont sceptiques. Maintenant, je constate d'ailleurs que là, nous avons en France un petit peu la palme du scepticisme.
C'est vrai. C'est vrai.
Je constate que, à nouveau, et c'était déjà le cas sur notre précédent jeu, Fahrenheit, c'est en France qu'on a obtenu entre guillemets les moins bonnes notes, même si là aussi nous avons dans notre pays une moyenne très très honorable, hein, qui doit se situer aux alentours de 88%. Voilà, je pense que c'est le jeu. Il faut réussir à convaincre un maximum de critiques, bien évidemment, pour donner envie. Nous avons réussi à le faire, et je crois que les joueurs qui ont acheté le jeu ont dans leur très grande majorité là aussi véritablement apprécié leur expérience.
Je me suis permis de poser quelques questions, de demander aux auditeurs et membres du forum Game Radio de poser des questions. Je me permets de vous en lire deux, trois. Deux questions notamment posées par Calam, la première étant celle-ci: Quantic Dream se revendique encore aujourd'hui comme un studio indépendant, pourtant Sony a pris une place importante dans la vie du studio en soutenant et en supportant Heavy Rain. Comment le studio peut-il encore garantir son indépendance?
L'indépendance, vous savez, je pense que c'est à la fois un état d'esprit et un état de fait. Aujourd'hui, le capital de Quantic Dream est détenu en majorité par des personnes physiques, par des gens qui travaillent dans Quantic Dream, au premier chef duquel David Cage, bien évidemment. Et puis ensuite, on, de toute façon, en tant que studio, la quasi-totalité des studios travaillent avec la plupart du temps avec un éditeur de référence. C'est notre cas aussi. pour le moins, on a cette capacité à proposer des concepts innovants et à développer les jeux qu'on souhaite développer. Je pense que c'est d'ailleurs ce que Sony est venu chercher chez nous, pas un studio qui fait, comme on dit en jargon marketing, des me-too, c'est-à-dire des copies conformes d'autres jeux, mais véritablement des jeux novateurs et innovants. Et tant que nous pourrons continuer à développer ces jeux que nous souhaitons, c'est-à-dire novateur, unique, nous considérons être indépendants.
Autre question posée par Calam. Alors ça me gêne un petit peu de vous la poser, je vais le faire quand même, peut-être qu'il aurait fallu poser la question à la personne mise en cause par ça. Il s'agit de la communication faite par David Cage, qui n'a pas fait toujours l'unanimité auprès de certains gamers, auprès de certains acteurs du métier. Calam cite notamment, plus précisément, une phrase de David Cage prononcée lors d'une interview où il dit « On peut résumer 20 ans de jeux vidéo en pampan boum boum ». Calam voulait avoir votre avis sur cette phrase.
Je pense que ce que David Cage a voulu dire par là, c'est que la quasi-totalité des jeux vidéo sont aujourd'hui des jeux d'action qui ne font pas la part belle à l'histoire, à la caractérisation. Et c'est vrai qu'il fait souvent cette analogie avec les films pornographiques, hein, oui. C'est-à-dire qu'il y a dans un jeu vidéo un tout petit bout d'histoire, la plupart du temps, une petite scène cinématique. Ensuite, beaucoup d'action, et ensuite à nouveau une petite séquence cinématique pour faire avancer l'histoire. Personne n'est véritablement là pour l'histoire, tout le monde est là pour l'action. Voilà, je pense que ce n'est pas faux de dire que on peut résumer assez facilement ces dernières années, ces premières années du jeu vidéo comme étant essentiellement orientées vers l'action.
Même si cela convient à une grande majorité de joueurs.
Mais bien sûr, mais je pense que vous savez, c'est le jeu vidéo au départ est un divertissement pour des adolescents. Et je pense que ce type d'expérience véritablement orientée vers l'action convient parfaitement à ce type de joueurs. Mm-hmm. Moi-même, d'ailleurs, ça peut être des adultes qui souhaitent retomber en adolescence. Oui, moi-même, je suis un joueur de FPS, j'adore ça. J'y joue une ou deux heures par semaine et c'est très bien. Maintenant, nous pensons chez Quantic Dream que le jeu vidéo peut être autre chose. Nous ne disons pas qu'il peut, il doit être fondamentalement toujours différent, mais par contre, il y a d'autres voies qu'on peut explorer et qui sont tout aussi intéressantes. Nous considérons qu'un jeu vidéo peut aussi ne pas être qu'un jouet pour des adolescents, justement, mais une véritable forme d'expression, et en particulier quelque chose qui, une expérience qui fait véritablement du sens et qui est basée sur l'émotion.
Question de RLS maintenant. Est-ce que le succès de Heavy Rain sur PS3 va vous conforter à développer sur d'autres plateformes et peut-être à vous ouvrir sur des marchés concurrents pour toucher plus de joueurs ?
Si vous voulez, quand on fait le choix d'une console, et pour Quantic Dream, ça a véritablement été un choix, parce que nous avons eu la possibilité de développer Heavy Rain sur différentes plateformes. Nous avons fait ce choix parce que d'une part, nous considérons toujours que cette console est la plus puissante, la plus intéressante sur le marché actuellement, et nous souhaitions pouvoir nous concentrer pleinement sur cette console pour donner tout simplement le meilleur de nous-mêmes sur cette production. Nous avons en plus trouvé en Sony un partenaire extrêmement attentif qui nous a beaucoup aidé dans le développement de ce jeu. Alors c'est pas des aides technologiques, puisque nous avons développé l'intégralité de notre moteur et des outils du développement. Toute la production a été faite en interne chez nous. Mais par contre, ils nous ont véritablement fait confiance, et c'est suffisamment rare dans cette industrie pour le souligner. À aucun moment ils n'ont remis en question les choix que nous avions faits, et au contraire ils nous ont encouragés. Donc nous ne voyons pas véritablement pour l'instant l'intérêt à développer sur d'autres plateformes. Bien évidemment, il y aurait un intérêt financier, mais comme Sony nous finance la totalité de nos budgets et est prête à consentir aussi certains efforts en termes de royalties, mm-hmm. Pour justement compenser ce manque à gagner. Nous considérons aujourd'hui que nous avons une équipe qui gagne, comme on dit, et que il est assez intéressant pour un studio de continuer à travailler en exclusivité pour Sony.
D'accord, très bien. Donc justement, dernière question posée par Interlope Junior, je pense que vous n'allez pas vraiment pouvoir nous répondre ou vouloir. Il voudrait tout simplement savoir quel est le prochain jeu Quantic Dream prévu.
Eh ben, vous l'avez dit dans votre question, je ne peux vraiment pas
J'aurais
vous l'annoncer.
Essayé.
Je pense, ce que je peux vous
des
dire,
directions,
c'est
peut-être.
Que chez Quantic Dream, on n'a pas l'habitude de faire des suites, et on n'a pas l'habitude de se reposer sur nos lauriers. Donc voilà.
Je pense David Cage parlait peut-être de s'orienter vers le multijoueur.
Nous travaillons actuellement sur différents projets qui sont très très intéressants, et ce que je peux vous dire, c'est que nous aimons bien être là où on ne nous attend pas.
Dernière chose, tiens, sur le contrôleur de mouvement de Sony, là, vous travaillez un peu là-dessus. C'est quelque chose. Je crois qu'Heavy Rain va peut-être être même adapté grâce à une mise à jour. Est-ce que c'est le cas ou pas?
Je peux vous confirmer que nous travaillons dessus, mais rien n'a été annoncé pour l'instant. Mais c'est effectivement un contrôleur qui est très intéressant. Vous l'aurez sans doute noté, Heavy Rain est un jeu qui fait la part belle justement au mouvement. Nous l'avons dit dès le départ, nous avions nous-mêmes à la genèse du projet envisagé de créer notre propre device pour permettre une interaction permettant justement de faire la part encore plus belle au mouvement. Donc le Move nous intéresse bien évidemment.
Mais écoutez, Guillaume de Fondomière, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Bonne continuation, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà pour cette interview de Guillaume de Fondomière. Je lui remercie d'avoir participé et puis nous avoir livré comme ça toutes ces informations, notamment sur peut-être la prochaine production de Quantic Dream. On sait pas grand chose, mais enfin on apprend quelques petites choses. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Je voulais quand même qu'on fasse le point ensemble sur ce qu'on a entendu dans cette interview, si tu veux bien. Peut-être rappeler aux gens réellement ce que c'est que ce crédit d'impôt jeu vidéo. C'est peut-être un peu flou pour la plupart des personnes. On va pas en faire 20 minutes parce que ça peut être même un petit peu embêtant. Ce qu'on appelle ce qu'on appelle le CIJV, donc le crédit d'impôt jeux vidéo, c'est une mesure dont l'objectif est de préserver, d'accroître la productivité des entreprises de création de jeux vidéo. Alors, les entreprises qui peuvent en bénéficier, ce sont des développeurs de jeux sur console, téléphone mobile, ordinateur, qu'il s'agisse de filiales ou de studios indépendants, et plus généralement d'entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, ces sociétés-là qui sont visées par ce crédit d'impôt jeux vidéo. Pour y accéder à ce crédit d'impôt, il faut faire des propositions de projets avec des dépenses, donc, et ces projets sont ensuite étudiés par le fameux CNC qui valide la demande, et donc c'est en gros une aide que l'on reçoit. Les jeux éligibles doivent présenter un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros, être destiné à une commercialisation effective auprès du public, donc il faut que les jeux soient vendus. Il faut pas que le jeu comporte de séquences à caractère pornographique ou de très grande violence. Alors, est-ce qu'Heavy Rain a eu droit au crédit d'impôt? J'en sais rien.
C'est pas pornographique, Heavy Rain.
C'est
érotique.
Ouais.
Mais pas pornographique.
D'accord.
Vu très grande violence, il faudrait pas qu'il y ait des têtes qui soient coupées.
D'accord. Donc, à la limite, qu'est-ce qu'on a comme jeu? GTA, mais il est pas français.
GTA, effectivement.
Ouais, en France, il respecte, hein, je crois ça. Donc voilà. Le jeu doit être réalisé principalement par des auteurs français ou européens et contribuer au développement de la création française et européenne en matière de jeux vidéo. Voilà. Si toutes ces choses sont là, eh bien, le crédit d'impôt peut être obtenu par la société, par le développeur. Alors concrètement, il s'agit d'un crédit d'impôt de 20% des dépenses éligibles, plafonné à 3 millions d'euros par entreprise et par exercice. Voilà. pour quelques détails concernant ce CIJV. Je sais pas si j'étais très clair. J'avoue que moi-même, je m'y perds un peu. Qu'est-ce que
c'est juste
peut
pour dire qu'ils donnent pas finalement ça à n'importe qui. Voilà, c'est pas quelqu'un qui monte une boîte qui dit voilà, je vais être développeur de jeux vidéo, donnez-moi le crédit. Non, non, ils étudient vraiment tous les dossiers au cas par cas. Et c'est important de le dire pour éviter toute niche fiscale, voilà.
Oui, et puis penser que c'est si simple de l'obtenir, il faut quand même 150 000 euros pour le coût de développement de 150 000 euros, c'est quand même une somme. Donc il faut déjà avoir un jeu assez costaud en préparation. Il faut être sûr que l'éditeur est derrière pour pouvoir le vendre. Il faut bien entendu respecter, on l'a dit, certaines contraintes au niveau du contenu. Donc pornographie.
Ils sont pas vraiment des contraintes en fait, parce que bon, si tu veux faire un jeu vidéo, t'es pas obligé de mettre de la pornographie, de la grande violence pour le vendre.
Ouais, bien sûr.
Sinon, c'est plus de l'art, hein. Enfin, c'est une œuvre d'art, un chef-d'œuvre.
Voilà. Et puis, pour peu qu'on soit un studio français, de toute façon, ou européen, on a accès à cette aide-là. L'autre point intéressant, je trouvais, dans son discours, c'était cette histoire de statut juridique, un peu flou. Effectivement, dans le cas de Game Radio, par exemple, on s'était posé pas mal de questions à une époque sur la musique de jeux vidéo. Je vais parler tout doucement, parce que si là, ça m'écoute, ça risque de me poser des problèmes. Enfin bon. Et qui concerne donc les droits d'auteur et les droits d'exploitation. Effectivement, la musique de jeux vidéo, moi, quand j'ai cherché à savoir quels étaient les droits rattachés à la diffusion de ces œuvres-là, c'est pas évident parce que c'est pas des musiques destinées au départ à être sur CD. Il faut savoir que quand on paye des droits pour la diffusion de musique, il y a les droits d'auteur avec la SACEM et puis il y a ce qu'on appelle les droits voisins. Donc il y a deux autres organismes auxquels il faut payer des droits. Et en général, il faut que les musiques aient été produites sur un support CD. Enfin voilà, il faut que ce soit commercialisé sur support CD. Dans le cas d'un jeu vidéo, c'est très particulier. Bah, c'est un peu à part. Et donc moi, j'ai eu beaucoup de mal à y voir clair là-dedans. Et apparemment, il n'y a pas que la musique. Hein,
c'est très compliqué parce que c'est vrai que au niveau du jeu vidéo, le statut juridique est difficile à être compris par les administrateurs, parce que finalement c'est pas que l'histoire ni même l'univers, c'est vraiment toutes les phases de gameplay qu'il faut réussir à protéger. Et on sait maintenant que par exemple un Mario va être copié 30 000 fois et il y aura pas de statut juridique à ce niveau-là, tu vois. Mm-hmm. C'est qu'un exemple, hein, ou un Tetris ou un Pac-Man, s'il y a quelqu'un qui fait le même concept avec un autre univers, on va dire non, c'est pas la même chose. Voilà, et pourtant le gameplay, c'est bien le même. Donc effectivement, il est encore difficile de donner vraiment un statut ou même des droits particuliers sur une création.
Et puis peut-être même en ce qui concerne l'usage des jeux vidéo, c'est comme un DVD en général, on n'a pas le droit de faire une diffusion public, hein, bien entendu dans le cadre familial c'est tout à fait autorisé. Est-ce que dans le jeu vidéo pareil, il y a les mêmes contraintes? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, si demain je décide de faire une soirée avec 150 personnes autour d'un jeu, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas, ou est-ce que j'ai des droits à payer? Voilà, c'est ce genre de questions, je pense aussi, qu'on peut se poser.
Oui, ou dans Alan, ou même par exemple le Stunfest, effectivement, d'acheter des jeux et puis de le faire jouer à plusieurs personnes dans une manifestation, est-ce qu'on a le droit? Enfin, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser, effectivement.
Voilà, et on revient à la musique du jeu vidéo. C'est vrai que c'est pas comparable, mais c'est assez intéressant. Ou le cinéma, dans le cas de musique, voilà, si tu fais une soirée et que tu diffuses de la musique, normalement, si en plus c'est une soirée payante et déclarée, tu dois payer de la SACEM.
Donc je pense qu'effectivement ils essayent de créer un équivalent entre guillemets de la CNC ou de la SACEM pour le jeu vidéo, spécifique au jeu vidéo. Et je pense que Guillaume de Fondemire a pas mal, participé à cette création de ce centre qui, j'espère, un jour va naître et donnera enfin les galons au jeu vidéo en France tel qu'il se doit, quoi.
On l'espère. On voulait parler ensemble. On s'était dit revenir peut-être aussi sur les. On va parler de Quantic Dream. On va parler d'Heavy Rain. On voulait ensemble parler un petit peu de No Man's Soul, qui est un jeu qui nous a finalement marqué tous les deux. Moi, j'y ai joué sur Dreamcast il y a 10 ans. C'était ton cas aussi?
Non, moi, c'est pas sur Dreamcast, c'est sur PC.
Ouais.
J'étais parmi les premiers. Enfin, quand le jeu est sorti, j'ai voulu tout de suite y jouer parce que.
Ah oui, moi aussi.
Je dis un jeu français d'une petite boîte. L'univers m'intrigue, me trouve génial.
Bah, écoute, à l'époque, je savais pas que le jeu était français. La seule chose que je savais, c'est que David Bowie était entre guillemets dans le jeu. Et rien que ça, je trouvais ça énorme. Et j'aurais su que le studio était français à l'époque, j'aurais été comme un dingue.
Ouais, c'est sûr, hein, effectivement. Et puis, moi, j'avais suivi plus ou moins déjà le développement du jeu, et de voir que des petits Français avaient eu l'accord de David Bowie pour pouvoir être dans le jeu et même carrément y intégrer un clip de plusieurs de ses chansons, j'ai trouvé ça absolument génial. Alors,
je me demande même si sa femme n'avait pas été modélisée aussi dans le jeu. Tu sais, cette femme black, superbe, grande mannequin.
Effectivement.
Ouais, je crois.
Hein.
Ouais. On essaie de se rappeler nos petits souvenirs autour de The Nomad Soul. J'ai pas de grands souvenirs de gameplay. Je me souviens de cette ville très sombre, Bon, les graphismes étaient pas terribles, enfin avec du recul, c'est vrai que c'est un peu vieilli.
Ah oui, ça c'est sûr.
Je me souviens que on était vraiment paumés, on découvrait le scénario au fur et à mesure. C'est surtout l'ambiance SF, moi, qui m'avait marqué. À l'époque, des jeux d'aventure SF, il y en avait pas énormément, surtout sur les consoles de salon les plus récentes à l'époque, notamment la Dreamcast. Donc moi, j'ai surtout ce souvenir, c'est que il y avait des nanas qui faisaient du lap dance dans un bar, donc on pouvait se régaler à voir des jeunes danseuses assez déshabillées. C'était un des premiers jeux, je crois, qui proposait ce genre de spectacle.
Non, il y avait aussi, on va dire, Duke Nukem 3D, où tu avais aussi des danseuses en 2D, tu sais, qui dansaient en lap dance comme ça.
Je m'en souviens pas.
Et t'avais le personnage qui donnait de l'argent. Enfin bref, ça a déjà été fait plus ou moins dans le jeu vidéo. Et bah, c'est même assez mythique pour Duke Nukem. Mais bon, je vais pas
à côté, moi, dis donc.
Non, ce qui était novateur, c'était effectivement, comme tu viens de le dire, un monde ouvert. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. En tout cas, à l'époque où elle est sortie sur Dreamcast, qu'il n'y avait pas du tout de monde ouvert où tu pouvais aller où tu veux, où tu avais les personnages qui étaient, on va dire, indépendants. Chaque personnage avait sa petite vie. C'était une des premières fois, on va dire.
Et c'est vrai que ça peut être un des ancêtres de GTA.
C'est effectivement un des ancêtres de GTA, même si il y a d'autres jeux qui le proposaient, comme Morrowind ou ses ancêtres qui étaient Daggerfall. Bon bref, c'est pas le premier, mais en tout cas c'est un des premiers déjà qui était grand public, donc sur console et sur PC, et puis tout en 3D. Mm-hmm. Voilà.
Alors donc, j'ai pas le souvenir que le jeu ait vraiment bien marché. Je crois surtout que ce qui avait fait son succès, c'est que c'était le seul dans ce genre-là avec une telle patte. Enfin voilà, il était un peu comme Heavy Rain aujourd'hui. Il était suffisamment original et unique pour que The Nomad Soul, déjà en son temps, se fasse remarquer. Je sais pas s'il a été un vrai succès. En tout cas, c'est un jeu que les gamers et que l'industrie du jeu vidéo n'a pas oublié.
Non, parce qu'il y avait vraiment cette French touch, comme on appelle ça dans le milieu du jeu vidéo, c'est-à-dire que on essaye d'aller un petit peu à contre-pied du marché. Enfin, j'ai l'impression que les développeurs français essaient un peu de trouver des nouvelles choses, de nouvelles idées, contrairement à la plupart des blockbusters qui se ressemblent tous petit peu.
On le voit aussi avec Fuel du studio Asobo, qui, au-delà d'être un simple jeu de voiture qui est plus ou moins réussi, ça c'est un autre débat, mais en tout cas propose quand même son originalité avec cet environnement hyper vaste, ce moteur 3D qui permet d'avoir une carte comme ça de plus de 8000 km², ce qui est assez immense. Donc c'est vrai que les Français ont cette tendance à vouloir proposer des choses assez innovantes.
Voilà, c'est peut-être aussi leur force et aussi leur faiblesse, parce que ils sont pas souvent entendu par des éditeurs, donc qui n'y croient pas ou qui ne peuvent pas donner de l'argent pour un tel projet, et c'est ça peut-être aussi qui a fait que le jeu vidéo français n'avait pas eu une période, comme il dit Guillaume de Fondemière, une période dans les années 2000 où le jeu français était vraiment presque inexistant parce qu'il avait perdu beaucoup de sa valeur. Et donc pour en revenir à The Nomad Soul, ce qui était aussi intéressant, c'était le gameplay en lui-même. Je parle pas des phases de combat parce que j'ai pas envie d'en parler, surtout que c'était un peu catastrophique, mais plus au niveau du jeu en lui-même. C'était un jeu d'aventure, mais c'était un jeu où tu pouvais incarner plusieurs personnages.
Alors ça, tu vois, d'ailleurs, je m'en souviens pas. J'ai pas ce souvenir là, moi.
En fait, un petit peu ce qu'avait fait après Messiah, enfin un autre jeu où tu incarnais une âme qui se transférait dans un autre corps, donc qui devenait un autre personnage, donc une autre histoire, et où tu devais remplir des missions dans son histoire. Et ça, j'ai trouvé ça hyper hyper novateur. Ça n'avait jamais été fait à l'époque, et je trouvais que ça donnait une ambiance qui était vraiment différente, et le jeu était différent à chaque fois qu'on rejouait. Ça, j'ai trouvé ça génial.
Enfin voilà, on voulait revenir un petit peu sur The Nomad Soul, qui, choix mais moi, enfin nous a marqué notre passé de joueur. Moi, j'ai trouvé intéressant aussi Guillaume de Fondemière qui nous dit un moment qu'il joue au FPS, hein, 2 heures par semaine, et que il est resté finalement un peu comme moi et toi, j'imagine, un adolescent un peu attardé. En tout cas, il a cette partie il a ça en lui, comme la plupart des jeunes adultes que nous sommes aujourd'hui. Le jeu vidéo nous permet de rester des grands enfants, donc lui il joue au FPS. Donc vous voyez, il est pas forcément fermé que sur des jeux très originaux. Enfin voilà, Heavy Rain, c'est un jeu, je pense qu'il l'aime énormément, hein, bien entendu. Mais voilà, il est ouvert aux autres styles. Ça rassurera peut-être ceux qui s'inquiétaient des propos, notamment de David Cage. Je retiens quand même cette phrase de Guillaume de Fondemière où il cite David Cage et où il fait l'analogie avec il fait l'analogie avec les films pornographiques. Sur le coup, ça m'a laissé un peu sans voix.
En tout cas, s'il voulait choquer, c'est réussi. Et
ah oui, tout à fait.
Au moins, il a eu l'avantage de dire il a dit quelque chose qui n'était pas commun.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vrai ou pas. C'est vrai que quelque part, le scénario est souvent très secondaire.
C'est très grossi, hein. Quand on dit c'est la pornographie, c'est hyper grossi. Mais disons dans le fond, il a pas tort.
Bah, il faut pas oublier une chose, c'est que bon, Quantic Dream parle beaucoup de Quantic Dream et David Cage, et puis finalement un petit peu aussi Guillaume de Fondomère parle donc de l'aspect narratif du jeu, de l'émotion énormément. C'est un petit peu le fer de lance du studio actuellement. Faut pas oublier que le jeu vidéo, avant de délivrer des émotions, c'est aussi un moyen d'avoir des sensations. Et je crois que c'est surtout ça le jeu vidéo au départ, c'est-à-dire que c'est un moyen de se défouler, de prendre du plaisir, c'est assez c'est presque sexuel, hein, le rapport qu'on peut avoir avec un jeu vidéo,
puis aussi de rêver,
rêver. Mais par exemple quand tu fais un FPS somme toute bourrin où tu tires sur des gens, ben c'est assez jubilatoire de pouvoir il y a des petites montées d'adrénaline quand tu passes le premier lane d'arrivée ou quand tu réussis à terminer une mission, enfin voilà, t'as une espèce de voilà. Et puis je me souviens aussi de David Cage qui disait que la plupart des jeux ne permettaient pas de réfléchir et qu'avec Heavy Rain ils avaient proposé un jeu qui permettait de réfléchir. Bon, moi je vois ma femme, je vais parler de ma femme un petit peu comme Columbo, tu sais, à chaque fois. Ma femme, non mais c'est intéressant, ma femme et qui est une dingue un peu comme moi, vient de finir Lego Indiana Jones à 100%. Elle a un 100%, c'est-à-dire qu'actuellement le Barnett College, pour ceux qui connaissent le jeu, qui est l'endroit où tu te retrouves systématiquement avant de te lancer en mission, eh bien t'as des pluies de pièces et de cœurs qui tombent partout parce que quand tu finis le jeu à 100%, c'est ce qui se passe. Je pensais pas avoir ça un jour, donc en fait tu te retrouves dans le musée du début du jeu, là l'endroit où travaille Indiana Jones, et t'as des pièces qui tombent du ciel, des cœurs, parce qu'elle a réussi le jeu à 100%. Je l'en félicite. Et pourquoi je dis ça, c'est que je l'ai vu jouer à ça, elle s'est carrément pris la tête, elle s'est bougé les neurones pour réussir à finir son jeu, parce que le jeu est un vrai casse-tête. Pourtant c'est un jeu de plateforme simple, t'appuies sur A pour sauter, t'appuies sur B pour donner des coups de poing, t'as pas
même
mal
pour enfant, hein. Même pour enfant,
même pour enfant,
ça s'est même vendu pour enfant,
ouais, c'est à partir de 7 ans quand même, hein. Il y a des scènes de violence, attention,
oula, attention. Il y a des ouais, briques de Lego qui tombent.
Non mais je voulais simplement dire que voilà, il n'y a pas que Heavy Rain qui permet de réfléchir. Enfin, même si effectivement Heavy Rain est plus adulte, permet d'avoir une approche, peut-être qu'on réfléchit sur les aspects. Il y a plusieurs moyens d'avoir des émotions ou des sensations à diverses échelles dans les jeux vidéo, même si le scénario n'est pas forcément présent. C'est un petit peu ce que voulais dire.
Dans ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Même je rajouterais que le jeu vidéo, c'est même un moyen d'évasion. Alors pas d'évasion dans le sens où on va devenir fou, on va s'évader, on va oublier la réalité, mais vraiment un moyen d'évasion, comme ce qu'on va prendre un bouquin et on va s'évader dans l'histoire, on va s'évader dans un autre univers qui est le nôtre. Et je pense notamment au RPG, la série des Final Fantasy.
Ouais.
Pourquoi il y a autant de personnes qui jouent, qui se prennent la tête sur ce jeu, c'est parce que c'est un vrai univers, c'est un univers complètement novateur et nouveau à chaque fois. Et puis moi je vois beaucoup de filles quand elles disent qu'elles jouent aux jeux vidéo, la plupart me disent moi j'adore les Final Fantasy parce que c'est un jeu qui s'adresse aux garçons mais aussi aux filles, parce que il y a tout ce concept de conte avec une princesse, des chevaliers, puis ces guerriers là, enfin là je pars assez loin, mais je pense que le jeu vidéo, en plus de donner des émotions, il évade, et c'est ce que peut-être a essayé de faire aussi Quantic Dream avec Heavy Rain, d'évader le joueur comme s'il allait lire un livre ou un film, mais là carrément en s'impliquant à l'intérieur. Et c'est ça qu'on appelle le film interactif, grossièrement.
Comme je le disais, film dont on est le héros, je le voyais un petit peu comme ça. D'ailleurs je peux pas m'empêcher de penser à Shenmue à chaque fois que je parle d'Heavy Rain, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y avait des QTE dans Shenmue, je ne sais pas.
Oui, il y avait des QTE dans Shenmue.
Non, mais
Shenmue c'était autre chose effectivement.
Non, mais là donc dans Shenmue, c'est vrai que ce qui fait que c'est un chef-d'œuvre, c'est que t'avais l'évasion, t'avais le gameplay, t'avais la narration, t'avais vraiment tous ces éléments qui font un grand jeu.
T'as des phases de jeu qui fait aussi office un petit peu comme un film de chapitre.
Je pense à un truc là. Je me souviens quand je jouais à Shenmue il y a 10 ans, je me souviens d'avoir essayé de faire jouer ma belle-sœur à l'époque, qui était pas encore ma belle-sœur, mais qui l'est maintenant. Je peux pas m'empêcher de parler de ma famille, c'est fou ça.
Non mais pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas.
On va tout savoir.
Ben voilà, on n'est jamais mieux servi que par ce qui nous entoure. Et qui m'avait dit, mais je lui avais montré, mais c'est génial, tu peux travailler le matin, tu te lèves, tu vas bosser, tu vas transporter des caisses,
oui,
tu vas transporter des caisses de bois dans le port et tout, c'est génial, machin. Je me dis, oh putain, mais moi, j'ai aucune envie de, le soir en rentrant du boulot, de travailler dans un jeu vidéo.
Et c'est cette réflexion, ce que je pense aussi.
Mais cette réflexion à l'époque m'avait laissé sur le cul. Elle me dit ça, c'est super réaliste, c'est génial et tout. Et finalement, avec du recul, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que, elle préférait à l'époque, justement, jouer à Final Fantasy, qui l'embarquait beaucoup plus loin dans la rêverie et dans l'évasion. Est-ce que finalement, les jeux réalistes, les films dans lesquels on est comme ça, les héros, sont vraiment, permettent tellement de s'évader, j'en sais rien. Bon, il y en a pour tous les goûts de toute façon.
Là, dans le cas d'Evil Rain, c'est un petit peu comme un polar, comme un, si on allait regarder un Julie Lescaut. Je vais un peu loin, mais c'est un peu ça en fait. Hein. L'histoire est très sombre, avec des meurtres. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails du scénario, mais c'est vraiment vu comme un polar, comme voilà, le dimanche soir, on va voir le téléfilm, le nouveau RIS police judiciaire. Ben là, non, on va se mettre sur Evil Rain et on va s'impliquer dans l'histoire. On va être l'expert.
Et je me rappelle
résoudre l'enquête.
Ouais, je me rappelle de Jarel qui me disait Evil Rain, j'aime assez parce que j'y joue avec ma femme. C'est-à-dire qu'on fait ça à deux, on se met sur le canapé, on regarde un peu effectivement comme un film interactif. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux facilement partager comme expérience, apparemment. Même si c'est pas du multijoueur, il y a moyen de prendre du plaisir à plusieurs sur Evil Rain.
Comme je te dis, ça se regarde comme un film, un polar noir. Ouais. Je trouve ça même assez intéressant de pouvoir enfin ouvrir un petit peu notre univers de jeux vidéo à d'autres personnes qui n'y connaissent absolument rien sans être perdu.
Alors, pour clore ce chapitre sur Quantic Dream, Evil Rain, Guillaume de Fondomière, je voudrais revenir sur ce qu'il nous livre, ce qu'il nous dit à la fin, et qui concerne déjà, petit 1, le fait que Quantic Dream va rester très fidèle à Sony et devrait ne sortir que des jeux exclusifs à la PS3. Donc ça oui. Nous est confirmé, voilà. Et l'autre truc, c'est qu'il nous annonce qu'il n'y aura pas, c'est clairement ce qu'il nous dit, hein, il n'y aura pas d'Evil Rain 2. Donc Evil Rain, il n'y en aura qu'un, il sera unique jusqu'au bout. Il nous dit clairement que c'est pas dans les habitudes de Quantic Dream de travailler sur des suites.
Alors, moi, je trouve ça complètement normal, et ils ont tout à fait raison d'aller dans un autre univers, pour essayer d'autres choses. Moi, un petit peu déçu parce que finalement, il n'y aura pas de suite de Nomad Soul, même s'il avait au départ prévu.
Il faut voir qu'une chose, c'est que chaque jeu est un petit peu l'enfant d'un autre. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas refaire Heavy Rain, mais certainement qu'Heavy Rain retrouvera du Heavy Rain dans les prochaines productions de Quantic Dream, comme on retrouve peu du Nomad Soul et du Fahrenheit.
Effectivement. Tout comme, voilà, comme Fahrenheit, on retrouve du Fahrenheit dans Heavy Rain. Effectivement.
Alors, on s'était posé la question de savoir si Heavy Rain allait être à la sortie du Move, allait être un des jeux après une petite mise à jour qui allait permettre d'y jouer avec le Move, le contrôleur de mouvement de la PS3. Apparemment, oui, c'est entre guillemets ce que nous dit Guillaume de Fondomière. En tout cas, il nous dit clairement que les prochaines productions du studio devraient très largement utiliser l'accessoire.
En tout cas, le kit E s'y prête à ce genre d'accessoire.
Ah bah, le gameplay du jeu s'y prête complètement. Ils pourront même aller encore plus loin dans leur délire.
Ah oui, là, c'est clair que même si au départ il a pas été conçu, il n'a pas été conçu pour PS Move.
Bah, t'entends ce qu'il nous explique. Il nous explique qu'ils étaient à deux doigts de fabriquer un contrôleur spécifique pour Heavy Rain. C'est ce qu'il était en train de nous dire. Et qu'ils avaient abandonné l'idée de sortir le jeu tel qu'il est aujourd'hui.
Pourquoi pas? Dans le cadre d'un patch, on peut facilement, je pense, adapter les mouvements qu'on utilise au stick, de le faire avec le PS Move, sans problème, je pense.
Voilà. Alors, en tout cas, on ne sait pas quel sera le titre du prochain jeu Quantic Dream. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il sortira exclusivement sur PlayStation 3. Que ça ne sera pas Heavy Rain 2, qui utilisera certainement le Move. Je crois qu'on en sait, voilà, mais c'est déjà pas mal. Merci en tout cas Guillaume de Fondomière de nous avoir donné ces petites exclusivités, puisque je crois que j'ai entendu parler de ça nulle part ailleurs.
Ouais, non, on n'a pas entendu beaucoup parler de Guillaume de Fondomière depuis sur d'autres sites.
Voilà, bon, je crois qu'on en a fini pour cette émission aujourd'hui. On a fait un peu le tour de toutes les questions qu'on voulait aborder dans ce podcast. Chouam, on se retrouve donc demain. Avant de se quitter, je voulais remercier Stéphane Larquet, qui vient d'envoyer un don à Game Radio, je le remercie. Merci beaucoup.
En tout cas, ça nous donne envie de continuer à fond.
Ah oui, c'est une motivation exceptionnelle. Enfin voilà, en tout cas, merci encore. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode du podcast Game Radio. Jouez bien, amusez-vous bien, boycottez Halo 3. À demain.
ODST.
À bientôt, ciao.
Ciao, ciao. Boycottez Halo 3. Game Radio.